Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette session d'actualité, la commune rurale de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero s'est vide de la quasi-totalité de sa population depuis jeudi soir. C'est à la suite de l'occupation de certains villages proches de Kanyabayonga et du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. Selon nos sources, même des humanitaires déployés à la suite de ces combats à Kanyabayonga pour apporter une assistance aux déplacés ont également quitté la zone et disent craindre une catastrophe humanitaire à la suite de cette situation. Plus question de voir des véhicules accidentés ou en panne, ainsi que les épaves en abandon le long des artères de la ville de Matadi. Le maire de cette ville lance dès le lundi 3 juin l'opération de traque de ses engins pour assainir les artères et fluidifier la circulation en vue d'endiguer les embouteillages et les accidents routiers à Matadi. L'invité de ce matin est Ismaël Matungulu, directeur de la radio communautaire Sake FM, devenu actuellement déplacé dans le site de Lushagala à Mugunga. En dépit de son statut de déplacé, il a installé depuis un mois maintenant sa radio dans les camps de déplacés. Dans ce journal, il nous parle de son courage et dévouement, ainsi que des difficultés de fonctionnement que rencontre cette radio communautaire. Bonjour à toutes et à tous. Commençons d'abord par cette information. L'Agence nationale de renseignement ANR a un nouveau patron. Monsieur Justin Inzoun Kakiak a été nommé administrateur général par ordonnance présidentielle lue hier soir par la porte-parole du président de la République à la télévision nationale. Augustin Moulumba Nsabwa a été nommé administrateur général adjoint. Nous y reviendrons. Au Nord Kivu, la commune rurale de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, s'est vidée de la quasi-totalité de sa population depuis jeudi soir. C'est à la suite de l'occupation de certains villages proches de Kanyabayonga et du territoire de Rutshuru par le rebelle du M23, Martial Papi Mukeba, pour les détails.
Des hommes, femmes, enfants et personnes de troisième âge ont été aperçus ce vendredi en train de quitter Kanyabayonga. À pied, certains portent quelques maigres effets essentiels au dos, d'autres utilisent des engins roulants. Des sources locales parlent de la quasi-totalité de la population de cette commune rurale, estimée à 80 000 personnes, en plus de quelques 50 000 ménages de déplacés déjà hébergés sur place. Ils se sont dirigés vers les localités voisines de Miriki, Buleusa, Kirumba et Kaina. Des humanitaires déployés à la suite de ces combats à Kanyabayonga pour apporter une assistance aux déplacés viennent également de quitter la zone. Certains d'entre eux disent craindre une catastrophe humanitaire à la suite de cette situation. La commune rurale de Kanyabayonga et ses environs sont présentés comme l'un des verrous des FRDC qui séparent les Grands Nord des zones sous occupation du M23 dans les territoires de Rutshuru. Depuis quelques jours, l'armée et les rebelles s'affrontent à une dizaine de kilomètres de Kanyabayonga. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la force de la défense sud-africaine, SANDEF, confirme des affrontements qui ont opposé jeudi 30 mai 2024 ses militaires contre les rebelles du M23 dans la région de Sake. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 31 mai, dans la soirée, l'armée sud-africaine annonce également la perte d'un de ses militaires ainsi que 13 autres blessés au cours de cette bataille. Tous les blessés ont été évacués à l'hôpital à Goma et sont en convalescence, ajoute-t-il. La même source confirme que deux de ces véhicules blindés de transport de troupes ont été endommagés. La SANDEF indique en outre que dès que toutes les informations impliquant leurs membres auront été vérifiées, une mise à jour sera communiquée et la famille du membre décédé sera informée, précise ces communiqués de l'armée sud-africaine. Rappelons que l'armée sud-africaine fait partie des troupes de la SADC, SAMI RDC, qui appuie les FRDC dans les combats contre les rebelles du M23 RDF au Nord Kivu. Nord Kivu encore, la coordination provinciale de la protection civile est finalement dotée d'un bureau administratif. L'inauguration du bâtiment est intervenue hier vendredi. La construction de ces bâtiments de 16 mètres sur 15, construits sur un terrain de 40 mètres sur 20 et contenant 6 pièces, dont une salle de réunion, a pris environ 12 mois. C'est dans le cadre du projet en appui au gouvernement congolais financé par la MONUSCO à hauteur d'environ 50 000 $ américains. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, qui a réceptionné l'ouvrage, dit se réjouir de cette réponse de la MONUSCO à ses besoins pour ses services de l'État. Le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Dans le travail que nous faisons quotidiennement, nous devons renforcer les capacités de nos services et c'est dans ce cadre-là que la protection civile a eu gain avec ce beau bâtiment qui lui a été construit par des partenaires et le gouvernement provincial qui, à partir d'aujourd'hui, constituera la clé de voûte de tout ce qui est protection civile au niveau de la province du Nord Kivu. C'est ici qu'ils échafauderont leur plan de protection en collaboration avec le gouverneur de province. Alors, il y a certains éléments qui nous manquent, notamment l'enclos. Mais toujours est-il que le renforcement en capacité et la montée en puissance se fait progressivement. Aujourd'hui, on a le bâtiment. Demain, ce seront des engins. Message d'abord à la population, particulièrement de Goma, et confiance en la protection civile, car de plus en plus, nous renforçons ses capacités. Et au fur et à mesure que nous évoluons, elle aura des enjeux qu'elle n'a pas aujourd'hui, mais qui peut-être demain et après-demain seront là. Et elle rendra efficacement ses services à la population et elle doit être confiante vis-à-vis d'elle.
Notez que l'exécution de ces projets mis en œuvre par les centres d'intervention et des promotions sociales participatives a profité à une équipe ouvrière de 30 personnes, dont 12 femmes. En Ituri, une cinquantaine de personnalités issues des différentes couches sociales réfléchissent sur les mécanismes à mettre en place pour relever les défis liés à la mise en œuvre du programme de PDD-RCS. C'est dans un atelier de 2 jours organisé depuis hier vendredi par la section des affaires politiques de la MONUSCO. L'objectif majeur est de créer un environnement de paix à travers la réduction des violences perpétrées par des groupes armés. Jean-Claude Lokidile.
Acteurs politiques, chefs coutumiers, cadres de l'administration publique, membres des organisations de la société civile et autorités judiciaires prennent part à ces travaux. Les participants réfléchissent sur les stratégies visant à identifier les parties prenantes pour promouvoir les conditions favorables à la mise en œuvre du PDD-RCS, mais également apaiser les tensions communautaires et politiques qui parfois contribuent à remettre en cause les efforts fournis pour consolider les acquis de la paix. L'autre défi, d'après les organisateurs, c'est résoudre les conflits fonciers qui sont parfois utilisés comme prétexte pour pérenniser les violences. Face à ces difficultés, des experts exposent sur plusieurs thèmes qui font l'objet d'analyses, la restauration de l'autorité de l'État dans les milieux où sévit encore l'insécurité, la problématique liée à la circulation des armes à feu et comment lutter contre l'exploitation illicite des ressources naturelles. Les débats sont orientés également sur le rôle de l'économie dans la consolidation de la paix. Pour la MONUSCO et d'autres partenaires, la réussite de cette approche doit obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au Congo central, le maire de la ville de Matadi veut en finir avec tous les véhicules accidentés ou en panne, ainsi que les épaves des véhicules en abandon le long des artères de la ville. Selon Dominique Nkodia, c'est ce lundi 3 juin que commence la phase d'exécution de cette mesure prise le 27 février de l'année en cours. L'objectif de cette opération est d'assainir les artères de Matadi et de fluidifier la circulation en vue d'endiguer les embouteillages et les accidents routiers dans la ville. Dominique Nkodia Mbete explique sa décision dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Nous avions signé un communiqué officiel numéro 06 demandant à tous les propriétaires des véhicules poids lourds et des épaves abandonnés sur la voie publique de les évacuer. Maintenant, nous allons passer à la phase d'exécution. Nous-mêmes, nous allons descendre sur le terrain pour évacuer les épaves, les véhicules abandonnés sur la voie publique. Il y en a qui seront même détruits parce qu'il y a beaucoup d'épaves qui sont sur la voie publique depuis plusieurs années dont leurs propriétaires ne se manifestent toujours pas. pas. Et dans notre communiqué, nous avions bien dit que tous ces véhicules-là ou toutes ces épaves abandonnées comme ça pendant plusieurs années, tant que leur propriétaire ne se présente pas, seront considérés comme des biens sans maître. Donc nous avons la réquisition du procureur de la République qui a même mis à notre disposition des inspecteurs des parquets qui vont travailler avec nous. D'ailleurs, nous avons trouvé un lieu où nous allons commencer à aller déposer tous ces véhicules abandonnés. C'est de l'autre côté du pont Maréchal. À partir de la semaine prochaine, comme nous avons la réquisition du procureur, nous allons commencer les travaux. Ils ont encore le temps, ils ont aujourd'hui et demain s'ils peuvent évacuer. Ceux qui ne vont pas évacuer vont s'en prendre quand même.
Parlons justice à présent. Élection des gouverneurs au Congo central. La Cour constitutionnelle annule la décision du Conseil d'État. Par conséquent, il n'y aura plus réorganisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. La Cour vient de statuer ce vendredi 31 mai en matière d'interprétation et des contrôles de constitutionnalité sur la requête dont elle a été saisie contre la décision du Conseil d'État qu'elle a jugée anticonstitutionnelle. Cette décision, rappelons-le, invalidait l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Dans une autre affaire, cette fois-ci, c'est la requête du ministre honoraire de tourisme Moderon Simba, poursuivi devant la Cour de cassation pour propagation des faux bruits dans les dossiers relatifs au suicide de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports. Le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent et a renvoyé Moderon devant la Cour de cassation. En bref, à propos de la tentative de déstabilisation des institutions survenue le 19 mai dernier à Kinshasa, un procès devant la justice militaire pourrait commencer très prochainement contre des militaires auteurs présumés d'exécutions extrajudiciaires filmées le 19 mai dans la capitale de la RDC, a indiqué une source gouvernementale citée par l'agence congolaise de presse. Tournée en marge de cet événement, une vidéo devenue virale montre des militaires de FRDC, forces armées de la RDC, procédant à une exécution sommaire d'un assaillant au large du fleuve Congo. D'après la même source, les présumés auteurs de ces tirs ont été identifiés, isolés et mis à la disposition de l'auditorat militaire. Ce dernier est en phase de bouclage de ses enquêtes et entend fixer l'affaire devant la cour dans les prochains jours. Ils répondront de leur implication présumée dans des exécutions sommaires filmées et largement partagées sur les réseaux sociaux, précise la même source. Affaire de l'immeuble abritant l'hôtel La Rose, situé sur l'avenue Kachobwe dans la commune de Lubumbashi, son propriétaire crie au scandale. Ce bâtiment est détruit malgré la décision de la Cour de cassation, le reconnaissant comme le seul ayant droit, indique-t-il. Il en appelle à l'implication des autorités pour qu'il soit rétabli dans ses droits. On écoute Oscar Kyungu au micro de Jean Gandou.
Ça fait mal. Je suis vraiment choqué sur ce qui se passe ici chez nous au Katanga. Je suis en possession, en pénal, hein, d'une décision de la Cour de cassation qui me donne le pouvoir sur ces bâtiments-là. Il fallait terminer des petites choses de rien du tout là. Les escrocs ont vendu cet immeuble. Quelque chose qui est scellé par la justice doit être déverrouillé par la justice. Un grand responsable de la justice au Katanga prend ma déposition, il classe ça sans suite. Je demande seulement au chef de l'État de regarder un peu la justice. Ça, c'est le poumon. Il ne faut pas décourager les opérateurs économiques congolais en faveur des autres, ça ne sert à rien. Puisqu'aujourd'hui, je peux commencer à douter d'investir au Congo. Je suis congolais, je dois être fier de mon pays. J'ai tous les certificats, j'ai tous les actes de la famille qui m'avait vendu. Je ne peux pas faire quelque chose à l'encontre de la justice. Et comme j'ai la décision de la Cour de cassation, je ne veux pas abandonner, je vais foncer. Quelqu'un qui investit autant de millions à un Congolais et qui va se perdre d'un coup comme ça, qui va me rembourser cet argent?
Tous les efforts pour avoir la partie incriminée sont restés sans succès. En Ituri, 6 morts, 28 blessés et des dégâts matériels importants, c'est le bilan des accidents de circulation enregistrés au mois de mai dans la ville de Bounia et sa périphérie. Ces statistiques ont été rendues publiques hier vendredi devant la presse à Bounia par la police de circulation routière, PCR. Ces services de sécurité justifient la fréquence d'accidents au chef-lieu de la province à l'ignorance du code de la route par la majorité des conducteurs, l'ivresse au volant et l'excès de vitesse. On écoute Paulin Tandema, sous-commissaire principal chargé de la sécurité publique de la police, au micro de Lydia Tchombe.
Pendant les heures des après-midi, à partir de 12 heures déjà, à ce moment-là, le trafic est tellement dense. Les gens se précipitent pour aller au repos. Les autres se précipitent pour rentrer chez eux vers les heures de la soirée. Pendant les heures de nuit, c'est alors que les taux augmentent. Parce que, d'abord, il y a absence de la police de circulation sur la voie publique. De deux, la plupart des cas d'accidents enregistrés la nuit, c'est dû à l'ivresse au volant. Le bon état de la route amène aussi les conducteurs à l'excès de vitesse. C'est-à-dire, quand on arrange la route, il n'est pas synonyme que les conducteurs puissent rouler à vive allure. Il y a des instructions. La loi est claire quant à ce. La limitation de vitesse dans les agglomérations, c'est au-dessus de 60 km à l'heure. Tout dépend des fréquences de trafic routier.
Dans la province du Maniema, les habitants du quartier Mbandaka dans la commune de Mikelenge ont réceptionné jeudi 30 mai un puits foré par la Caritas Développement Kindu. C'est un ouvrage construit au profit des sinistrés de la récente inondation qui a créé d'énormes dégâts matériels dans ces quartiers. Les travaux de ces puits d'eau potable ont été réalisés dans le cadre du projet d'anticipation et des réponses d'urgence à la crise d'inondation fluviale où trois puits ont été construits par Caritas Développement Kindu. Florence Kizalunga, reportage.
Réalisé avec la participation de toute la communauté de Lukunda, les bénéficiaires, surtout les femmes, remercient ces gestes de la Caritas. En Mbandaka, on souffre vraiment pour avoir de l'eau à boire. Mais nous remercions Caritas pour les inondations de cette année. On nous offre un puits d'eau. On puisait de l'eau au fleuve et traversait même les rails pour chercher l'eau de la régie des eaux. Nous sommes dans la joie, nous avons de l'eau à boire parce que nous souffrons. Pour le président du conseil d'administration des Caritas Kindu, cet ouvrage est une réponse à la demande de la population de ces coins. Monseigneur François Abeli appelle à une utilisation efficiente de cet ouvrage.
Pour réaliser ces ouvrages, la Caritas Développement Kindu a effectué une dépense de 30 000 $ américains en raison de 10 000 $ américains par puits. Un comité sera mis en place pour assurer non seulement l'entretien, mais aussi et surtout la pérennité de l'ouvrage. Ce forage est un bien commun et doit être protégé par tous. Il n'est pas seulement à l'avantage des sinistrés.
Notez que les habitants de Lumbulumbu qui ont aussi les mêmes problèmes plaident pour la construction d'un puits dans leur quartier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Des milliards de dollars d'or sont exportés clandestinement d'Afrique chaque année et la plupart d'entre eux aboutissent aux Émirats arabes unis où ils sont raffinés et vendus à des clients du monde entier selon un rapport publié jeudi. Plus de 30 milliards de dollars d'or, soit plus de 435 tonnes métriques, ont été exportés clandestinement du continent en 2022, selon les rapports publiés par SwissAid, un groupe d'aide et de développement basé en Suisse. Les principales destinations de l'or africain sont les Émirats arabes unis, la Turquie et la Suisse. Les auteurs du rapport ont déclaré que leur objectif était de rendre le commerce de l'or africain plus transparent et de faire pression sur les acteurs de l'industrie pour qu'ils fassent davantage pour rendre l'approvisionnement en or traçable et les chaînes d'approvisionnement plus responsables.
L'invité.
Ismaël Matungulu, directeur de la radio communautaire Sake FM, est un déplacé dans les sites de Lushagala à Mugunga. En dépit de son statut de déplacé, il garde la même vocation et passion de son métier de journaliste. C'est dans le souci de continuer d'informer la communauté qu'il a installé depuis un mois maintenant sa radio dans les camps des déplacés. Dans des conditions extrêmement difficiles et pénibles, la radio communautaire Sake FM émet avec comme auditoire les déplacés. Dans cet entretien accordé à Radio Kapi, il nous parle de son courage et dévouement ainsi que des difficultés de fonctionnement qu'il rencontre ces radios communautaires. Ismaël Matungulu s'entretient avec Denise Lukeso.
Monsieur Ismaël Matungulu, bonjour.
Oui, madame, bonjour.
Vous êtes déplacé et qu'est-ce qui est devenu votre radio, la radio communautaire Sake FM?
Comme vous le savez, La situation sécuritaire dans les Massissi a affecté tout le monde et la radio communautaire Chak FM n'est pas restée indifférente. Nous continuons de travailler malgré les contextes actuels que nous traversons. Nous continuons toujours à exercer notre travail de journaliste.
La radio émet à partir d'où?
Nous avions installé notre radio ici à Mugunga, dans les camps de déplacés, communément appelés Kimashini de Lushagala. Depuis cela un mois, avec la même fréquence, c'est là où nous émettons déjà. Malgré les obstacles, la radio fonctionne et les auditeurs sont satisfaits de notre travail.
Et qui sont vos auditeurs?
Nos auditeurs, ce sont les habitants d'abord des différents camps de déplacés de Mugunga. Ce sont les habitants de Goma, il y a les habitants du territoire de Masisi et Nyiragongo, voire également une partie du territoire de Kalehe, au sud qui précisément à Minova, où on nous écoute là-bas. Mais les déplacés des guerres de Bulengo, Nzulo, Samsamu, Luashi, Kashaka, Rego, Bouimba suivent régulièrement également nos programmes car elles donnent vraiment de bonnes informations sur la situation sécuritaire. Elle est divertie, elle est digne et elle forme la population de chez nous, de Massissi.
Dites-nous, dans quelles conditions, en tant que déplacé, vous travaillez? Et vous fonctionnez avec quels moyens?
Nous travaillons pour le moment dans des conditions purement énigmatiques, vraiment dans des conditions hermétiques, car plusieurs de nos matériels ont été pillés par des hommes armés non identifiés lorsque nous fuyons l'avancée des rebelles du MV3 et les bombardements aveuglés des combattants du MV3 aux alentours des collines sur Plomba, la cité de Sake, voire même à pleine cité de Sake.
La radio communautaire Sake FM fonctionne avec combien de journalistes actuellement avec son statut-là, radio déplacée?
Nous avions ici au moins 7 journalistes, dont 3 femmes. Et tous sont des déplacés de guerre. Nous vivons sans assistance. Depuis le mois de février, nous sommes ici pour trouver aujourd'hui même les carburants pour allumer notre station radio. Nous faisons des contributions entre nous, les journalistes.
Dans ce contexte de déplacement, quelle est la grille des programmes de votre radio?
Vous savez, il y a plusieurs communautés qui se trouvent ici dans les camps de déplacés de Mugunga. C'est pour cela que nous faisons d'abord des émissions sur la cohabitation pacifique. Il y a également la promotion et l'autorisation des femmes et des jeunes filles. Il y a émissions sur la culture et sport. Il y a émissions sur la protection des enfants pendant cette période de guerre, car beaucoup d'enfants sont intégrés les groupes armés. C'est pour cela que nous diffusons, nous sensibilisons de telle sorte des émissions. À ce qui concerne les enfants moins de 18 ans, il est strictement interdit d'entrer dans les groupes armés. Nous produisons également des émissions sur la prévention et lutte contre les VBG. Il y a plusieurs camps de violence ici à Mugunga. C'est pour cela que nous diffusons également ces émissions pour sensibiliser cette communauté qui se trouve ici à Mugunga. Il y a les émissions de santé maternelle. Par exemple, il y a un cas de choléra qui se trouve ici à Mugunga. En tout cas, la radio communautaire Sake FM sensibilise la communauté par rapport à l'environnement qui se trouve ici à Mugunga. Émission de développement et protection de l'environnement. C'est pour cela que nous sollicitons vraiment une assistance pour que la radio Sake FM reste fonctionnelle et ses journalistes déplacés soient considérés comme d'autres journalistes. Par exemple, des journalistes de la ville de Goma, par exemple, des journalistes nationales, voire même internationales.
Merci beaucoup, monsieur Ismaël Matungulu. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire Sake FM.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information mise en onde pour vous par Mimi Kindou sous la supervision et coordination de Jude Bilandan Kumar et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis.